est gratuite.
Et bien c'est noté, avant de nous embarquer pour le Palais de la Découverte ce matin, un petit coup d'œil à vos conditions météo et plein soleil jusqu'à lundi, c'est la bonne nouvelle. Un temps de rêve, un peu de vent pour aérer tout ça et des températures qu'on n'attendait plus, entre 28 et 30 degrés dans toute l'Île-de-France. En gros, 30 degrés Versailles, Comble-la-Ville, Saint-Germain-en-Laye, Argenteuil, Paris, Boulogne-Billancourt, Bobigny, Le Raincy jusqu'à Cergy.
France Bleu de France, Susanna Poveda.
12h, 13h. Et aujourd'hui jusqu'à 13h, on pousse la porte d'un lieu étonnant. Cette semaine, j'ai choisi de vous emmener au Palais de la Découverte, avenue Franklin Roosevelt, entre les Champs-Élysées et les quais, à côté du Grand Palais, du Petit Palais, faut pas confondre. Hein. C'est un palais qui est né en 1937, qui a été inauguré lors de l'exposition universelle. J'ai peur de dire des bêtises, mais vous me corrigerez. Nous recevons ce matin Guy Simonin, directeur scientifique du Palais de la Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un palais qui n'a de palais que le nom, hein. Personne n'y a jamais habité.
Si, certains y habitent, mais ça, il ne faut pas le dire.
Ah bon ?
Nous avons eu effectivement des médiateurs qui, autrefois, ont pu y habiter, mais exceptionnellement.
Alors, l'idée du palais, c'est vraiment de montrer la science, non pas figée, mais la science en train de se faire.
Oui, tout à fait. Le Palais de la Découverte est l'un des seuls musées au monde à proposer chaque jour, sans réservation, plus d'une cinquantaine d'exposés spectaculaires où l'on voit la science en train de se faire. Et le plus souvent, ce sont des vraies expériences avec une participation du public, une convivialité très forte et un esprit très sympathique.
Mais il y avait eu des rumeurs comme quoi il allait fermer, info, intox.
Pas du tout. Le palais a eu effectivement plusieurs plans de rénovation qui n'ont pas pu se produire, mais actuellement il n'a jamais été aussi vivant et nous avons régulièrement une augmentation chaque année du nombre de visiteurs qui viennent le fréquenter.
Le Palais de la Découverte, avenue Franklin Roosevelt, à l'honneur ce matin sur France Bleu Île-de-France.
France Bleu présente deux films majeurs.
Fusion. Si vous le savez, vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056.
Jouer, c'est gagner.
0810 055 056.
France Bleu Île-de-France.
Et à bientôt midi et quart, avant de franchir les marches du Palais de la Découverte, puisque c'est là que je vous emmène ce matin. Un bouchon sur la 13 entre Rocancourt et Le Chesnay, sur la 3 Bondy-Rugny et sur la 86 dans le sens Créteil-Maison-Alfort. Et puis on vous rappelle que l'événement de ce samedi, c'est évidemment la finale du championnat de France de rugby au Stade de France. Le coup d'envoi sera donné à 17h45, donc soyez prudents dans le secteur. On vous aura prévenu, ne vous faites pas piéger. Visite guidée avec Guy Simonin, le directeur scientifique du palais, qui est venu nous parler de ce lieu magnifique, puisque le palais c'est d'abord une architecture, une splendeur, et il y a un contraste, c'est ce qu'on se disait en antenne, entre le monument ancien, lourd, en pierre de taille, avec une verrière aussi qui est très belle, et l'intérieur divisé en plusieurs espaces. Il est né comment ce palais ?
Il est né avec le Front Populaire en 1936. Le Front Populaire a confié le secrétariat d'État à la recherche à Irène Joliot-Curie, puis à Jean Perrin, prix Nobel 1908, pour ses travaux sur l'atome. L'année suivante, en 1937, Jean Perrin crée en même temps le CNRS et le Palais des Découvertes. Vous voyez que c'est une époque extraordinaire,
très foisonnante,
très féconde. Et voilà ce qu'il disait en 1937. C'est intéressant. Nous voulions familiariser nos visiteurs avec les recherches fondamentales, en répétant journellement les grandes expériences auxquelles ont abouti ces recherches, sans en abaisser le niveau, mais pourtant de façon accessible à un très grand nombre d'esprits. Et nous voulions par là répandre dans le public le goût de la culture scientifique, en même temps que les qualités de précision, de probité critique et de liberté de jugement que développe cette culture qui sont utiles et précieuses à tout homme. Vous voyez que c'était assez prophétique comme parole, elles sont tout à fait à l'honneur actuellement.
Et la recherche fondamentale, c'est quoi ?
La recherche fondamentale, c'est difficile à définir. C'est aussi la recherche appliquée fait de la recherche fondamentale. Les deux termes sont assez complémentaires. La recherche fondamentale, c'est d'abord comprendre les fondamentaux, les briques qui constituent le savoir, qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Voilà ce que c'est.
Donc à l'intérieur, il y a plusieurs, il y a une surface donc en marbre, en rondeur. Si vous nous faisiez une petite visite guidée, il y a différents espaces, c'est bien plus grand que ce que je pensais.
Le Palais de la Découverte, effectivement, il occupe 18 000 mètres carrés dans la partie ouest du Grand Palais. Le Grand Palais, tout le monde connaît maintenant la Grande Nef qui est rouverte depuis quelques temps. Mmh. Et chaque année, on a 500-600 000 visiteurs qui visites de Palais de la Découverte, en gros un quart de scolaires et trois quarts du grand public. Dans ce palais, nous avons une trentaine de lieux, une vingtaine de salles d'exposés. Et c'est ça le trésor du palais. Dans ces 20 salles, il se passe toujours quelque chose. Chaque jour, des spectacles de science qui se produisent et qui sont tout le temps différents. Le médiateur, face à un petit groupe, cherche à interférer avec son groupe. Il va questionner le groupe, il va faire des expériences avec son groupe et ça ne sera jamais la même chose parce que le groupe n'est jamais le même.
Donc l'idée, c'est de rendre visible la science. Et il y a une chose qui m'a frappée quand j'y suis allée l'autre jour, c'est l'école des rats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
L'école des rats est un lieu extraordinaire, avec un très grand succès, et qui va bientôt être rénové avec une salle un tout petit peu plus grande, parce qu'en général, on est trop serré, il y a trop de succès dans cette salle. On présente devant le grand public un apprentissage de comportement auprès d'un rat. On lui a habitué pendant des mois à parcourir un labyrinthe pour aller chercher une croquette. Et il va faire des choses très compliquées à faire, notamment, par exemple, prendre une bille, et la placer dans un trou pour déclencher un système d'ouverture, etc., pour déclencher la distribution d'une croquette au final de son parcours.
Donc ça montre l'intelligence.
L'intelligence, ça montre en tout cas la possibilité d'apprendre, ouais. D'apprendre des programmes assez compliqués pour ces animaux que sont les rats.
Et autre lieu fantastique à l'intérieur de ce palais, c'est le planétarium, qui a été d'ailleurs le premier planétarium de France.
Tout à fait, le premier planétarium en 1938, qui accueille 200 000 visiteurs par jour. Et chose extraordinaire, c'est un planétarium qui n'a pas pris le virage de certains planétariums qui sont basés sur le virtuel, mais au contraire, le planétarium du Palais de la Découverte présente le ciel étoilé, mais avec un voyage dans le temps et dans l'espace. La possibilité de faire bouger les étoiles, mais non pas de faire un spectacle de cinéma, comme à la Géode, par exemple, sur cette magnifique voûte. On est resté sur le réel, on s'accroche au réel au Palais de la Découverte.
Mais alors, quelle est la différence entre le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie ?
Nous sommes complémentaires. La Cité des Sciences et de l'Industrie présente les sciences, l'industrie, la société, donc des grands sujets transversaux qui sont compliqués à aborder. Et au Palais de la Découverte, on estime que pour comprendre ces grands sujets très importants, hein, sciences et sociétés sur le réchauffement climatique, l'alimentation, l'énergie de demain, etc., on a besoin d'avoir des connaissances basiques, de connaître les sciences qui nous permettront de mieux comprendre les enjeux de ces grandes questions. Sinon, nous risquons de tomber dans des discours ou dans des écoles, dans de la parascience ou dans des choses qui ne sont pas subjectives. Et nous voulons, nous, retrouver les fondamentaux, comment être plus armé pour mieux comprendre ces problèmes de science et de société.
France Bleu de France, Susanna Poveda.
12h-13h. Alors, droit dans la vocation du Palais de la Découverte, vous y proposez depuis quelques temps, depuis fin mai, en partenariat avec des scientifiques allemands, une opération qui est baptisée « Un chercheur, une manip », dont l'objectif est d'amener au palais des chercheurs venus donc faire en direct les démonstrations. Et on va retrouver en ligne tout de suite Yves-Bernard André, chercheur, spécialiste des lasers, qui travaille au laboratoire d'optique appliquée à Polytechnique et à l'ENSTA. Alors, parlez-nous justement de cette opération Un chercheur, une manip. Bonjour.
Bonjour. Alors d'abord, je ne suis pas chercheur allemand, mais je suis chercheur français.
Eh oui.
Donc, cette expérience est faite en commun avec des chercheurs allemands et des chercheurs français.
Alors, vous travaillez sur les lasers. Quel est le but de votre manipulation ?
Voilà. Alors, donc, on travaille sur les lasers. Il faut savoir que les lasers ont été inventés en 1960. Hein, donc, ça fait à peu près 45 ans. Et ils ont évolué évidemment dans le temps, et ils ont évolué en particulier sur la durée des impulsions qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'en 60, ils procuraient des impulsions de l'ordre de la nanoseconde, c'est-à-dire 10-9 secondes, et maintenant on produit des impulsions de l'ordre de la femtoseconde, c'est-à-dire 10-15 secondes.
Oui.
Donc il s'agit de lasers produisant des flashs très brefs,
oui.
Et cette durée est à la seconde, ce que l'épaisseur d'un cheveu est à la distance Terre-Lune. Donc vous voyez, c'est...
D'accord. Mais alors, à quoi ça sert les lasers ?
Alors, cette durée très brève de l'impulsion qui est fournie par le laser permet de concentrer de l'énergie et donc d'avoir une puissance extrêmement grande, c'est-à-dire de l'ordre de 10 gigawatts, soit pour, disons, le commun des mortels, c'est l'équivalent de 10 centrales électriques. Alors, avec ces lasers, qu'est-ce qu'on fait ? Vu leur puissance, ils permettent de créer des électrons dans l'air, donc de créer un fil conducteur invisible. Et également, ils permettent d'analyser les concentrations et la pollution dans l'atmosphère en temps réel.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on connaît la vitesse des particules, on connaît les particules, on connaît leur altitude, etc.
D'accord. Bon, vous avez un double appel, hein, mais on continue comme si de rien n'était. Comment se déroule concrètement la manipulation au palais.
Alors, nous avons apporté au palais une vraie expérience. C'est une expérience qui se fait. Vous voyez, nous, on fait des recherches actuelles. Donc, on a mené une expérience actuelle. Donc, évidemment, il se peut que le fonctionnement ne soit pas totalement satisfaisant. Mm-hmm. Mais c'est les aléas de la recherche et les gens donc comprennent ça très bien. On a amené une table optique qui pèse plus d'une tonne 3, qui est passée par la fenêtre, etc., qui est sur vérin pneumatique. Mmh. Et normalement, ce type de laser demande absence de poussière, régulation de température, etc. Mmh. Et là, on a pris le risque de le présenter au Palais de la Découverte, devant les personnes.
D'accord, donc avec du vrai matériel de laboratoire. Et justement, les gens vous posent des questions, ça rend la science plus humaine finalement.
Tout à fait. Alors, on présente deux lasers. On présente ce laser qui est à la pointe de la recherche et on montre aux gens comment fabriquer eux-mêmes un petit laser pour de l'ordre de 20 ou 30 euros et avec une plaque d'aluminium, un intercalaire de cahier, et on leur montre comment on fait fonctionner un laser et il fonctionne devant eux avec des pièces très très simples. Donc ça permet aux gens d'avoir accès à la science directement, de voir comment ça se passe. Et de donner goût, évidemment, aux jeunes et aux nombreux jeunes, d'ailleurs, qui viennent, qui posent des questions. Eh bien, peut-être plus tard, ce sera des scientifiques et puis ils prendront notre relève.
Mais c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Yves-Bernard André.
Voilà, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Donc, cette opération à chercheurs, une manip, c'est jusqu'au 2 juillet au Palais de la Découverte. Une occasion, pourquoi pas, de susciter des vocations.
Votre région a enfin sa radio.
Et vous écoutez France Bleu Île-de-France et à l'instant les Beatles, All You Need Is Love.
France Bleu Île-de-France, Susanna Poveda.
12h, 13h. Et nous sommes toujours au Palais de la Découverte avec Guy Sémonin, le directeur scientifique du palais. Comment est-ce que vous sélectionnez les sujets pour intéresser aussi bien les enfants que les grands-parents ?
Alors les sujets sont sélectionnés d'abord par l'actualité scientifique et par l'évolution de la recherche. Nous avons dans un conseil scientifique une trentaine de scientifiques reconnus, des prix Nobel, comme Pierre-Gilles Degenne, Jean-Marie Laine, des académiciens des sciences, comme Catherine Bréchignac, Pierre Léna, Claude Lorius, Jean-Didier Vincent, et de nombreux autres chercheurs. Et ensemble, nous sélectionnons les sujets les plus propices à être montrés, pour montrer la science qui se fait. Mais évidemment, pour attirer le plus grand nombre, y compris ceux qui ne sont pas intéressés par les sciences, nous avons régulièrement une exposition beaucoup plus grand public, comme le Festin des dinosaures dernièrement, qui est un énorme succès.
Oui.
Et on s'est aperçu que les gens qui venaient en famille avec des très jeunes enfants étaient intéressés après l'exposition grand public, voir qu'est-ce qu'il y a autour. Et puis ils découvrent petit à petit cette grande richesse, ces expériences réelles qui se font devant eux. Et il y en a pour tout le monde. Tout le monde y comprend un petit peu quelque chose. Souvent, quelques exposés sont un petit peu compliqués, mais ils passent, il y en a d'autres en même temps. Il y a un foisonnement de recherches possibles. En tout cas, pour l'avenir, nous sommes en train de rénover complètement le Palais de la Découverte et le choix de la rénovation est typiquement celui-ci. C'est très simple. D'abord, on va partir du plus grand vers le plus petit, de l'espace vers la matière. Et nous aurons une vingtaine de salles qui présenteront l'astronomie, la Terre, la mécanique, la matière. Et puis, du plus petit à l'immatériel, les mathématiques, les jeux mathématiques, le hasard. Et puis, pour aborder le monde du vivant, du plus élémentaire, la biomolécule, l'origine de la vie, jusqu'au plus organisé, la biosphère. Et voilà un peu notre découpage, vous voyez, les fondamentaux de la science sur lesquels chacun devrait pouvoir s'y retrouver. On veut voir les volcans, on les trouve. On veut voir ce qu'il y a dans le chocolat, ou la cuisine par exemple. On aura une salle de cuisine où on pourra goûter, sentir des choses. C'est une nouvelle façon d'aborder la chimie d'une façon plus agréable.
Eh oui, mais ça veut dire que le palais va être en travaux ?
Le palais va être en travaux. À la suite de la Grande Nef, il y a un plan d'organisation, puisque le palais est maintenant sous une co-tutelle, ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et ministère de la Culture. Et nous allons envisager des grands travaux dans les prochaines années pour, petit à petit, sans fermeture, tranche par tranche, rénover y compris le bâtiment et en même temps toutes les salles.
D'accord.
Actuelles.
Alors, parmi les grands événements en ce moment, il y a cette exposition Gorille, qu'on peut tous voir. C'est un partenariat avec France Bleu d'ailleurs. Et on est plongé dans une forêt. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Parce que c'était la mode, le film King Kong qui est sorti il y a quelques temps.
L'exposition a été préparée avant même que l'on sache que ce film allait ressortir. Elle a été faite par le Centre de Sciences de Rennes. Mm-hmm. Et c'est une coproduction. Et nous produisons, nous, de notre côté, une exposition Illusion qui va ouvrir en octobre et que le Centre de Sciences de Rennes pourra profiter après. Et cet esprit qui domine l'exposition Gorille a été choisi par les commissaires de l'exposition, ceux qui, notamment, ont vécu parmi les gorilles pour retraduire l'esprit, l'ambiance de ces monts du Virunga à la limite du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie et du Zaïre, du Congo belge, et maintenant qui s'appelle la République du Congo. Et c'est dans ce lieu un peu magique que l'on essaye d'introduire les visiteurs pour qu'ils ressentent un peu l'ambiance qu'a vécu Diane Fossé ainsi que André Lucas.
Bah André Lucas, vous savez quoi, il est avec nous. Oui. On va le retrouver tout de suite au micro de Laurent Vallière qui est sur place au Palais de la Découverte. Bonjour Laurent.
Bonjour Susanna, bonjour Guy Simonin. Bah merci de m'envoyer comme ça en reportage en pleine brousse, c'est magnifique ici je dois dire. Alors là, les plantes par terre, je m'y croirais vraiment. Il y a aussi on entend des cris d'oiseaux, voilà, je me croirais presque dans la jungle. Et effectivement, il y a plein de photos magnifiques qui sont accrochées que vous avez prises, André Lucas. On parlait de vous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on se rappelle de Diane Fossé, hein, la jeune chercheuse qui, on le sait, a longtemps vécu avec des gorilles. Je crois que c'était au Rwanda. Elle est morte dans des conditions non élucidées. Et vous aussi, vous avez vécu au milieu des gorilles. Et en fait, ce que vous présentez, c'est le résultat de ces expériences. Vous êtes allé vivre combien de temps là-bas en fait?
J'ai fait trois expéditions. J'ai fait une expédition de près d'un an en 76, une seconde de trois mois qui s'est soldée par une morsure de gorille, donc qui a interrompu un peu le travail en 78, et je suis retourné un mois et demi en 88. Et je vais y retourner dans deux mois.
Alors, qu'est-ce que vous préférez, la compagnie des hommes ou la compagnie des gorilles, dites-nous?
Mais ça dépend des hommes, tantôt. En ce qui concerne les gorilles, il y en a beaucoup moins de surprises qu'avec les hommes. On peut beaucoup mieux prévoir.
Parce que quand même, et c'est ça le résultat étonnant de cette exposition, c'est qu'il y a beaucoup de points communs, enfin je sais pas, il y a un chiffre de 90% ou 99%, beaucoup de points communs entre l'homme et le gorille. Alors, en société, comment ça rend avec les gorilles?
Bon, génétiquement, effectivement, on partage comme avec les grand singe, un patrimoine génétique qui est quasiment identique à 1 ou 2% près. En termes de comportement, disons que si nous n'avions pas un verdict culturel qui cache beaucoup de choses, on ne serait pas très loin d'avoir des comportements identiques, disons quoi. C'est pour ça qu'on peut appréhender et, je dirais, se rendre compte de tel ou tel comportement d'un gorille, alors que chez l'homme, c'est plus difficile de pouvoir savoir ce que ça pense.
Vous voulez dire que la jalousie existe chez les gorilles, mais pas l'hypocrisie?
Il n'y a pas d'hypocrisie, il y a des jalousies, il y a des violences, il y a de la douceur, il y a des craintes, il y a des angoisses, il y a tout ce qui est un caractère affectif se retrouve bien sûr chez les gorilles, tous les grands singes, comme chez l'homme. Il n'y a absolument aucune différence dans ce domaine.
Ils vivent en tribu, c'est ça?
Ils vivent en famille, ce sont des petits groupes de 3, 4, 5, 15, 20, 25 quelquefois. C'est très variable, il y a toujours un grand mâle dominant, des fois accompagné d'autres mâles dominants quand le groupe est important. Et bon, c'est régi par des lois bien sûr de rapport de force, une hiérarchie qui s'impose dans le groupe, avec des animaux qui disposent d'un certain statut, mais qui est modifiable. Les animaux peuvent changer de groupe, en particulier les femelles, partir d'un groupe paternel et retrouver un autre groupe, et puis revenir, voire aller dans un autre, quelquefois même avec un enfant, d'ailleurs ça leur arrive, parce que bien que ce soit pas très bien vu par les mâles dominants des autres groupes, qui les tuent, ça leur arrive aussi, c'est pas toujours très tendre, la vie de gorille n'est pas toujours très tendre dans la nature. Donc c'est une vie sociale, organisée, quelquefois assez complexe dans les rapports et les relations interindividuelles, parce qu'il faut bien observer, et ça varie, ça fluctue, et ça se modifie sans arrêt. Hein.
Alors, ils sont faciles à photographier, il faut attendre combien de jours avant de sortir son appareil photo?
Oui, alors, ils sont faciles à photographier quand ils ont été habitués. Il faut compter quand même, avant d'approcher un groupe de gorilles, en travaillant quotidiennement, faut compter 3 mois quand même, pour habituer la présence d'un observateur, environ 3 mois. C'est variable, ça dépend des groupes. Si on a un vieux mâle, on l'approche plus facilement, il se montre généralement moins craintif que les jeunes mâles qui sont encore un petit peu plus hargneux, un petit peu plus agressifs que les vieux. Mais en général, il faut compter 2 à 3 mois avant de pouvoir les approcher dans un rayon d'une dizaine de mètres et de pouvoir les observer sans qu'ils fuient, sans qu'ils chargent, parce que évidemment, les charges, ça dure des semaines et des semaines hein, avant qu'ils s'habituent à la présence des observateurs. Mais une fois qu'ils se rendent compte que finalement, la personne qu'ils reconnaissent ne présente pas de danger, bon, ils s'habituent assez vite. Et au bout de 6 mois ou 1 an, on peut s'asseoir à côté d'un groupe à quelques mètres sans les déranger ou les perturber, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Laurent.
Merci surtout à André.
Merci André Lucas. Une dernière chose, évidemment, j'imagine que l'idée de l'exposition, c'est aussi de montrer qu'il faut protéger ces gorilles.
Ah ben, c'est essentiel, oui, bien sûr. C'est essentiel, du moins ce qu'il en reste, parce que en termes de gorilles de montagne, vraiment, strictement, il en reste 650 à peu près, uniquement sur les volcans Virunga et dans la Bwindi en Ouganda, qui est juste à côté d'ailleurs. Hein. Ce sont les 600 derniers rescapés et survivants, et qui ont échappé à 10 ans de guerre civile, qui continue d'ailleurs. Il faut dire que la situation à l'heure actuelle, en particulier en RDC, et même au Rwanda et un peu partout dans cette région des volcans, est quand même encore trouble, et il y a une insécurité permanente. Ça nuit au tourisme, d'une part, surtout côté congolais, bien sûr, puis ça risque de nuire aux gorilles, et ça nuit aussi aux gardes qui sacrifient leur vie, il faut dire, pour préserver ces gorilles. Il faut savoir que sur 450 gardes, il y en a près de 150 qui sont morts ces 10 dernières années pour préserver ces gorilles dans le parc. Donc c'est à haut risque. Hein.
Oui, André Lucas, merci beaucoup. Et merci Laurent.
Merci à vous.
Au revoir, bonne matinée. Gorille, c'est une exposition à découvrir avec France Bleu Île-de-France jusqu'au 26 novembre au Palais de la Découverte.
France Bleu Île-de-France, Susanna Poveda.
12h, 13h. Et on continue notre visite du Palais de la Découverte avec notre scientifique Guy Simonin. Ce palais, pour vous, c'était un rêve d'y travailler un jour?
Oui, effectivement. Tout jeune, quand j'ai découvert la première fois les expériences d'électrostatique et d'air liquide, ça m'a vraiment étonné. Et je crois que ça a dû participer à l'éveil de ma vocation scientifique.
C'est-à-dire que vous-même, donc, vous y alliez?
Mes parents m'y ont emmené, j'y suis allé quelques fois, effectivement, et j'ai pu découvrir la science autrement. Pour moi, la science enseignée à l'école était d'abord un ensemble de savoirs, des apprentissages par cœur. C'était très rare qu'on fasse des expériences en classe. D'ailleurs, ça reste encore vrai, malheureusement, la plupart du temps, quand je vois mes enfants. Pas le temps, les programmes sont trop chargés, il y a de plus en plus de choses. Les TP, on les fait après, mais dans un esprit qui est complètement
dissocié
de la recherche. En fait, ce qu'on recherche avec le Palais de la Découverte, c'est de créer la condition suivante. Vous faites une expérience étonnante, vous posez des questions aux gens. À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens sont pas d'accord. C'est génial. Quand ils sont pas d'accord, c'est très très bien. Alors, qui est-ce qui pourrait avoir raison? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Eh bien, on va faire une expérience.
Ouais.
Et comme dans une classe, lorsque dans une classe on réussit à faire cette dynamique-là, lorsque les élèves s'approprient le sujet en disant je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir, on attend l'expérience et c'est elle qui va nous démarquer. C'est pas par des coups de poing, par des engueulades ou par des forts en gueule. Non, pas du tout. C'est l'expérience scientifique qui va nous dire voilà un peu vers où on devrait penser, parce que ça colle pas avec ce que je pensais. Vous voyez, c'est pas blanc ou noir. On avance tranquillement. Et c'est ça la démarche que nous cherchons à créer dans la tête des visiteurs. Et c'est un peu la démarche qui est actuellement en cours dans les nouveaux programmes d'enseignement des sciences, dans le primaire d'abord, et dans le secondaire actuellement.
Alors c'est vrai que quand on se balade dans le palais, il y a des médiateurs à chaque coin de salle qui sont là pour nous accueillir et puis aussi voilà pour nous montrer les expériences. On va retrouver un passionné, c'est Camille Fadel. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour le coup, vous, c'était un rêve hein, de travailler au palais, si je ne m'abuse.
Pour moi, c'était effectivement je dirais pas un rêve d'enfant très petit, puisque quand j'étais très petit, je n'habitais pas en France, je ne connaissais pas encore l'établissement. Mais mon rêve de tout petit, c'était quand même de faire des expériences et expliquer à mes parents, mes amis, mon frère et aux gens qui étaient autour de moi les choses que je venais de comprendre moi-même. Et c'est plus tard qu'en fait, lorsque je suis arrivé en France, j'ai découvert le Palais des Découvertes et à partir de là, donc à partir de 14-15 ans, c'était pour moi un rêve de travailler ici, oui.
Alors, vous êtes médiateur, mais finalement, vous êtes plus qu'un médiateur, parce que, par exemple, moi, quand je suis allée au palais, j'ai assisté carrément à un show sur l'électrostatique. On était comme dans une salle de théâtre. Il y avait une scène. J'avais l'impression que la médiatrice qui faisait l'expérience était comme une comédienne. C'est vraiment un show.
Oui, à cela près que, effectivement, il y a une mise en scène qui est destinée à attirer, rendre très attractif la présentation. Mm-hmm. Mais le but premier de la présentation, c'est de faire comprendre quelque chose de scientifique. Mm-hmm. Si vous voulez, on pourrait prendre deux extrêmes. On pourrait imaginer qu'on a affaire à une pièce de théâtre qui est saupoudrée d'informations scientifiques, ou bien on peut aussi considérer qu'on a affaire à une présentation scientifique saupoudrée de théâtre. Mm-hmm. Je pense que le Palais des Fêtes, c'est plutôt présentation scientifique saupoudrée de théâtre.
Oui. Alors justement, ce spectacle, cette démonstration sur l'électrostatique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement en quoi elle consiste?
Alors, elle consiste essentiellement à, fondamentalement, faire comprendre aux visiteurs que ce qu'on appelle communément électricité ou charge électrique, ces charges électriques se trouvent absolument partout. La matière, que ça soit une goutte d'eau, ou bien un bout d'air, ou un bout de sol, ou un bout de banane, la matière est faite de charges électriques, des plus, des moins, et que généralement, il y a autant de plus que de moins. À ce moment-là, on dit que la matière est neutre. Il arrive, dans certains cas, qu'il y a un excédent de charges électriques négatives, ou un excès de plus. À ce moment-là, la matière est dite chargée, et on peut à ce moment-là observer un certain nombre de phénomènes qui peuvent aller de les cheveux dressés sur la tête, des petites boulettes qui montent, qui descendent, la foudre, etc.
D'accord. Donc le public peut monter sur scène aussi ou pas?
Bien sûr. Ouais. L'objectif aussi, c'est toujours de faire en sorte que le public, le visiteur, puisse à un moment ou à un autre intervenir dans l'expérience. Mmh. Cette personne qui intervient, pour elle, c'est vraiment quelque chose qui va marquer la personne. Mais l'auditoire qui est en train d'observer la chose se sent quand même, à travers un des visiteurs, se sent quand même plongé dans l'expérience.
Mmh. Camille Fadel, merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt. Donc évidemment, on voit bien que c'est pas du tout des professeurs tournesols hein, chez vous. Ce sont
pas
vraiment des professeurs en contact avec le public, le concret.
Ce sont des médiateurs scientifiques qui ont en général une bonne formation scientifique et qui sont passionnés pour faire transmettre ce petit grain, ce savoir scientifique. Ce qui les anime, parce qu'on pourrait se dire quand même de répéter le même exposé ou la même démonstration des dizaines et des dizaines de fois, il peut y avoir une usure. Or, je ne constate pas d'usure parmi mes médiateurs. Et ce qui anime cette flamme, je pense que c'est surtout le plaisir de transporter un petit groupe d'un point A à un point B et de sentir ce transport passionnant. C'est comme, effectivement, ça se rapproche d'une pièce de théâtre dans laquelle on transporte avec des idées un public. Mais là, il y a quand même la réalité, le réel. Et on ne triche pas au Palais. On fait de la vraie expérience.
Vous écoutez France Bleu, Île-de-France. Monsieur
parler.
Clément, il avait presque fini. Vous écoutez France Bleu, Île-de-France.
France Bleu de France, Susanna Poveda.
12h, 13h. Et nous arrivons à la fin de cette émission consacrée au Palais de la Découverte avec Guy Simonin, directeur scientifique. Finalement, vous êtes en contact permanent avec les laboratoires.
Oui, c'est ça un peu la richesse du Palais de la Découverte actuellement. C'est une nouvelle orientation. Par cet espace qui s'appelle Un chercheur, une manip, dont on a vu tout à l'heure l'exemple du laser, femtoseconde, nous avons la chance de susciter de nombreuses collaborations avec toutes sortes de laboratoires. Et par exemple, en ce moment, nous avons un laboratoire de Rennes qui nous avait présenté des nappes phréatiques avec une modélisation remarquable. Et cette présentation a été travaillée, c'est le but du Palais de la Découverte, c'est de montrer, au-delà de ce qui se fait dans la fête de la science, c'est de montrer un peu plus précisément, avec plus de moyens, pour le plus grand public possible, ce qui se fait dans le laboratoire. Et cette présentation sur les nappes phréatiques, elle est actuellement visible au stand du Palais de la Découverte, au Salon Européen de la Recherche et de l'Innovation,
ah oui,
Porte de Versailles.
Oui.
C'est ouvert aujourd'hui jusqu'à 19h et oui, demain de 10h à 18h.
Oui.
Donc je vous conseille d'y aller, c'est très intéressant. Vous voyez la recherche dans des images qu'on n'a pas l'habitude.
Mm-hmm.
Et ce qui est intéressant, c'est que il y a actuellement un changement d'optique dans la vision de la science. Pour le grand public, la science, c'est la certitude, c'est le monsieur en blouse blanche. Oui. D'ailleurs, c'était le slogan du palais.
C'est
en 1938, sur une affiche, je l'ai là devant les yeux, « Je sais tout
oui. ».
L'avenir est là, je sais tout. Monsieur, je sais tout.
Et maintenant, ça change.
Maintenant, ce n'est plus du tout ça. C'est au fur et à mesure des découvertes, la lumière se fait sur les fondamentaux qui expliquent le monde qui nous entoure. Soit, je commence à savoir, mais plus je sais, plus je me pose de questions, plus je suis humble, plus je suis critique même par rapport aux certitudes que certains pourraient annoncer.
On n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge, d'autant plus que certains scientifiques s'expriment, notamment des célébrités, s'expriment avec leur bonne foi en disant « je pense que c'est ça ». Mais le public, il n'entend pas ça, il entend « je crois et je suis sûr que c'est ça ». L'hypothèse du scientifique devient la certitude du public. Vous voyez le malentendu. Et nous cherchons à lever ce malentendu maintenant, d'abord en humanisant la science et en montrant que quand on travaille de ce type, de cette façon-là, on acquiert un esprit critique, une liberté de pensée qui est très importante aujourd'hui. Si on ne veut pas tomber dans les groupes de pensée, dans les extrémismes de tout genre, dans les pseudo-sciences qui peuvent nous raconter des choses, mais vraiment abracadabrantes. Et il faut pouvoir dire, non, je ne sais rien, mais je cherche à redémontrer. Je veux tout redémontrer, ou au moins avoir cette démarche. Comment on le sait ? Qui l'a recherché ? Est-ce qu'il n'y a pas des laboratoires qui ont trouvé l'inverse ? Etc., etc. Et pour tous les sujets qui nous concernent, notamment le pétrole, après le pétrole, qu'est-ce qu'on va utiliser ? L'environnement, est-ce que c'est dangereux ? Le nucléaire, etc. Pour tous ces sujets-là, si on n'a pas ce regard très, très équilibré, on va droit dans la chapelle, dans la croyance, et c'est très regrettable.
Évidemment, tout en s'amusant, puisque je vous assure que quand on y va, on voit les ados courir partout, s'amuser, participer à plein de petites expériences. On n'a pas parlé de l'exposition permanente sur la communication animale, il y en a une autre aussi actuellement sur la grippe aviaire. Mais le bon plan de l'été, je tenais à le préciser, c'est le billet 4 musées, c'est-à-dire que un billet plein tarif acheté dans un des établissements scientifiques et partenaires, donc soit le Palais de la Découverte, soit le Muséum d'Histoire Naturelle, le Musée des Arts et Métiers ou la Cité des Sciences, vous achetez un billet plein tarif et ensuite vous pouvez aller partout pour un billet demi-tarif. Donc c'est la bonne nouvelle de l'été, le bon plan de l'été.
Et l'autre bon plan, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons actuellement dans les chantiers, dans les canaux, des belles expositions en préparation pour l'automne, une exposition sur les illusions.
Ah oui.
Et vous allez être vraiment étonnés.
Oui. Et tout se prépare d'ailleurs au palais. Hein.
Tout
vous
se
avez
prépare
des ateliers
au palais.
Au-dessus.
Oui, c'est un peu la force du palais, c'est de pouvoir développer le plus possible avec le personnel du palais. Les équipes techniques, mais les équipes scientifiques qui sont toutes en contact avec des laboratoires. Et l'autre grande piste que nous travaillons actuellement, c'est pour l'année polaire, l'an prochain, sur les pas de Paul-Émile Victor. 70 ans après Paul-Émile Victor, on retourne au Groenland, on découvre un réchauffement mais gigantesque et on travaille là-dessus actuellement.
Eh ben très bien. Eh ben Guy Simonin, merci beaucoup.
Merci.
Le message est passé. En tout cas, voilà, donc ce billet, pensez-y, hein, puisque ça sera vraiment le bon plan de l'été. C'est du 1er juillet au 3 septembre. Gorille, une exposition à découvrir avec France Bleu Île-de-France jusqu'au 26 novembre au Palais de la Découverte. Un chercheur, une manip, c'est jusqu'au 2 juillet. Et le palais, je vous redonne l'adresse, c'est avenue Franklin Roosevelt, métro Franklin Roosevelt. Et vous verrez, c'est très bien indiqué. Le numéro de téléphone, c'est le 01 56 43 20 20 01 56 43 20 20, une sortie à faire en famille. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Toutes les heures.
Toutes les heures.
Sur France Bleu, 2 minutes pour bien choisir vos sorties.
France Bleu Île-de-France, concert.
Il n'est pas né dans le Missouri.